Chapitre 5. Une scène bien différente se passait à la même heure au château de Goyenne. Un jeune homme du village de Tyrol, qui avait autrefois fait la cour à Moïdi, était venu trouver Franz assez tard dans la soirée. Il lui avait appris au retour des deux fugitifs les liens qui paraissaient les unir et que la situation de la jeune fille rendait assez visible. Chacun, avait-il ajouté, était saisi d'indignation. On s'écriait que l'autorité ecclésiastique devait faire prendre justice et purger le pays par l'exil ou par la mort des monstres qui le souillaient. Franz était justement dans un accès d'humour noir. Il avait eu une querelle avec la riche veuve, sa fiancée. Il saisit avidement l'occasion de décharger sa colère. Il entra dans la chambre où son père, assis devant une table, lisait tranquillement la gazette en buvant un verre de vin. Auprès de lui, Rosine et Anna s'occupaient à filer. Franz leur raconta l'histoire des voyageurs en leur nommant des épithètes les plus énergiques et il eut la satisfaction de voir sa tante devenir plus pâle comme la mort, tandis que Rosel, tremblante, laissait tomber ses bras d'étonnement et d'effroi. Elles avaient toujours pris la défense d'André, mais que pouvait-elle dire maintenant? Il était perdu, perdu de la manière la plus honteuse et la plus misérable. Il leur souhaita le bonsoir d'une voix railleuse, ferma la porte derrière lui et descendit par un étroit sentier jusqu'à la ville où il se proposait de passer la nuit et de tout disposer pour mettre à exécution ses projets de vengeance. Restés seuls, les trois hôtes de Goyenne demeurèrent silencieux au moins pendant un quart d'heure. La tante Anna s'était promptement remise. Elle paraissait prier avec ferveur. Rosaëlle, incapable de penser, regardait son père, qui tenait toujours ses yeux fixés sur le journal, et aspirait avec énergie la fumée de sa pipe. Enfin, il se leva, secoua soigneusement les cendres du tabac et donna l'ordre à sa fille de se retirer. Et quand elle fut partie, il s'avança tout près d'Anna. « Est-ce là ta prière ? Oh, c'est un pauvre moyen de surmonter les obstacles que le diable met sur notre route. Tu as entendu que ce vagabond, oh, je ne puis pas l'appeler autrement, est revenu dans le pays. Peut-être se doute-t-il de quelque chose au sujet de ses parents. Veut-il faire un esclandre pour nous forcer à le tirer d'embarras? Mais, je te le répète, il ne franchira pas le seuil de la maison, ni lui, ni son effronté de Moïdi. Je n'aurais pas mené 40 ans une vie honorable pour voir sur mes vieux jours un misérable enfant trouvé, le fils d'un hérétique, couvrir de honte notre famille. Je ne veux pas que la sœur de Joseph Hirtz passe par le langue des médisants. Si tes prières, si ta sainteté n'avaient servi qu'à te rendre au bout de 20 ans l'objet de la risée publique, il aurait mieux valu. » Il s'arrêta et retint la malédiction qui était sur ses lèvres, car il venait de rencontrer le regard de sa sœur et l'attitude calme et fière d'Anna lui imposait involontairement le respect. « En voilà assez, » continua-t-il d'un ton radouci. Je n'ai pas besoin de t'en dire davantage. Tu sais aussi bien que moi ce qui arriverait si tu manquais de jugement et de fermeté. Demain, de bonne heure, je ferai atteler le cheval et je te conduirai à Lana auprès de notre cousin. Il y a foire dans le pays, tu resteras jusqu'à ce que l'air de Goyen soit devenu meilleur. Je pense que ce ne sera pas long. Je mènerai, s'il le faut, ma main à la poche. Je lui offrirai une somme ronde, à la condition qu'il s'éloigne pour toujours. On pourrait acheter aussi la maison et les terres du Kuchelberg. On lui donnerait la fille par-dessus le marché. De cette façon, nous serions débarrassés de lui et nous n'aurions aucun reproche à nous faire. J'y réfléchirai. La matinée suffit pour notre voyage. À midi, je serai de retour et je m'entendrai avec le vicaire. Car c'est lui, je crois, qui a le plus d'empire sur ce tabageur sans cervelle. Mais si tu t'opposes à ma volonté, je t'en préviens, ma sœur, tu t'en repentiras. Je ne te donnerai pas un creuset de ton héritage. Je plaiderai plutôt jusqu'au tombeau. Dans toutes les occasions, tu trouveras en moi un ennemi. Tu es averti maintenant. Sois donc raisonnable. Ne me parle plus de cette affaire et ne cherche ni ruse ni détour. Ce serait peine perdue. Il sortit sans attendre sa réponse, mais elle l'entendit descendre dans la cave. Sans doute, malgré l'assurance qu'il avait montrée, l'excitation du vin lui était encore nécessaire pour fortifier sa résolution. Rosine rentra et vit sa tante les yeux remplis de larmes. « Viens avec moi dans ma chambre, lui dit Anna, j'ai à te parler. » Elle se leva d'un air calme. Sa main ne tremblait pas en tenant la lumière pour traverser le vestibule. Pendant que Joseph lui faisait connaître son impitoyable volonté, elle avait elle aussi pris une décision irrévocable. Le sang de Hirzer coulait dans ses veines, et son frère le savait bien, aussi présentait-il une révolte. Le regard d'Anna l'avait profondément troublé. Il n'avait jamais lu dans ses yeux cette expression fière, triste, presque menaçante, jamais depuis le jour où il avait paru devant elle après sa lutte sanglante avec l'étranger. Le vin chassa de son esprit ses sombres pensées. Quand, le lendemain, les cloches de Méran sonnèrent la première messe, le maître du château de Goyen était encore plongé dans un sommeil profond. Aussi n'entendit-il pas les aboiements du chien de garde et le bruit de sa chaîne que secouaient ses bonds joyeux. Le fidèle animal avait reconnu les deux femmes qui, enveloppées de leurs vêtements d'hiver, descendaient en silence l'escalier de bois et disparaissaient bientôt au milieu des brumes du matin. Elles avaient veillé pendant la nuit entière et vu poindre le jour. Anna venait de raconter à sa nièce la mélancolique histoire dont la jeune fille avait un vague pressentiment d'après quelques paroles échappées à son père pendant l'ivresse. Les cachettes les plus mystérieuses de la grande armoire avaient été ouvertes. Des lettres d'amour, un petit portrait, quelques présents pieusement conservés furent alors pour la première fois étalés devant d'autres yeux que ceux qui avaient répandu tant de larmes en les contemplant. Mais cette nuit-là, un éclat extraordinaire les animait. Le visage de la tante Anna semblait rajeuni, ses joues s'étaient colorées, et elle marchait d'un pas si rapide que Rosine avait peine à la suivre. Un brouillard épais s'étendait sur la vallée, enveloppait le Kuchelberg et les pics aigus des montagnes voisines. On entendait le bouillonnement de la passerre qui se précipitait en mugissant sur son lit rocailleux. De temps en temps, sur les chemins qui menait à l'église, les deux femmes entendaient, sans les voir, plusieurs paysans s'entretenir avec animation. Au milieu de leurs paroles revenait sans cesse un nom qui faisait battre le cœur d'Anna Yetzer et de sa nièce. Comme elles approchaient de l'église, un groupe d'hommes les salua respectueusement et s'ouvrit pour leur livrer passage. Mais elles ne se dirigèrent pas, comme à l'ordinaire, vers la porte du temple où une foule nombreuse était déjà réunie. Chacun les vit avec étonnement tourner vers la droite et prendre les sentiers escarpés qui conduisent au Kuchelberg. Mais qu'allait chercher Anna, la pieuse fille, dans ce lieu maudit? Que dirait-elle au couple égaré? Voulait-elle protéger par sa sainteté les pauvres pécheurs ou bien lancer elle-même contre eux l'arrêt de réprobation? Voilà ce que les paysans se disaient les uns aux autres. Mais Anna ne s'inquiétait ni de leur chuchotement, ni de leur nombre. Elle ne remarquait pas que les routes solitaires d'habitude étaient ce jour-là pleines de monde. À peine répondait-elle par un léger mouvement de tête au salut qu'on lui adressait. Elle gravissait le chemin raboteux comme si dégagée des liens du corps, insensible aux paroles humaines, elle eut acquis en même temps la force de surmonter tous les obstacles terrestres. Derrière elle venait Rosine, dont le calme et doux visage était aujourd'hui si pâle que les femmes se la montraient du doigt d'un air de compassion. Elles ne prirent pas le temps de se reposer à mi-chemin sur le banc adossé au rocher. Elles semblaient poussées par le pressentiment qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Et en effet, pendant la nuit, la haine et la vengeance avaient accompli leur œuvre de ténèbres et amoncelé sur la petite maison une redoutable tempête. Un peu après minuit, André, réveillé par le froid, entra doucement dans la chambre et voyant que la pauvre Maria dormait d'un sommeil paisible, il s'étendit devant le foyer pour prendre encore quelques heures de repos. Dès les premières lueurs de l'aube, il entendit avec inquiétude un bruit de voix devant la fenêtre et aperçut des ombres confuses qui semblaient épier ce qui se passait dans l'intérieur. Il avait heureusement fermé la porte au verrou. Il s'approcha de la ferrure, prêta l'oreille et en entendit assez pour ne conserver aucun doute sur le danger qu'il menaçait. Il jeta au dehors un regard furtif et la scène qu'il découvrit au milieu du brouillard froid et triste comme un linceul lui fit dresser les cheveux sur la tête. La moitié de la population des villages de Tyrol, de Gratsch et d'Algund, qu'il avait traversé la veille dans un état si misérable, s'était rassemblée autour de la maison sans songer à la messe du dimanche qui allait bientôt sonner. Mais dans quel but ces hommes entouraient-ils la petite métairie? Aucun d'eux, peut-être, ne le savait bien clairement, mais tous pensaient que les coupables avaient mérité une punition terrible. Le sentiment d'intérêt et de compassion que Moïdi aurait inspiré, peut-être, était complètement étouffé par la malveillance universelle qui s'attachait au taciturne et fier André. Aussi l'entendait-on dans les groupes de curieux que des paroles sinistres et ne voyait-on que des visages animés par la colère. Les habitants de Méran étaient venus en grand nombre. Parmi eux, les tuniques blanches, qui n'avaient pas oublié l'aventure de leurs camarades, ne se montraient pas les moins hostiles. À mesure que la cloche de l'église appelait les fidèles à l'office divin, les paysans des villages de la Passerre gravissaient en foule les sentiers escarpés de la montagne, car, de mémoire d'homme, nul n'avait été témoin d'un scandale aussi monstrueux. Les murmures et le tumulte augmentaient toujours, mêlés à la grande voix du clocher qui semblait elle aussi accuser les pécheurs. Alors un homme, dont les traits avaient une hideuse expression de fureur sauvage, s'élança hors des groupes en criant « Qu'on mette le feu à la porte, je saurais bien le faire sortir de sa tanière, le scélérat, le misérable. Je vais le traîner moi-même sur la place, là nous le mettrons en pièces, il sera écartelé par 4 chevaux et nous jetterons ses membres dans la passerre. Je l'ai juré, moi, Franz Hirzer, c'est le seul supplice qui convienne à ce chien, à ce fils de Satan, et je ne conseille à personne de s'y opposer. » Pendant ce discours, la foule était restée muette et immobile. Tous les regards se dirigeaient du côté de Franz, qui s'avançait vers la maison, accompagné des camarades avec lesquels il avait passé la nuit à boire et à fumer. Il était sans chapeau, son visage enluminé portait encore les traces de l'orgie, mais ni sa démarche ni son accent n'annonçaient l'ivresse. La jalousie, la haine, l'orgueil de jouer un rôle important l'avaient complètement dégrisé. Le prisonnier entendit ces paroles furieuses, il entendit les acclamations qui répondirent à Franz Hirzer, l'encourageant à se faire l'exécuteur de la justice du peuple. Le tumulte de la foule se rapprochait. André sentit un frisson mortel parcourir ses membres. Peu lui importait sa propre vie, elle lui était devenue odieuse dès sa jeunesse. Mais comment sauverait-il la pauvre créature qui reposait si paisiblement sous sa garde ? Devait-il subir à cause de lui un martyr terrible ? Devait-il essayer de s'offrir seul en sacrifice et prendre sur lui toute la faute ? Mais qui l'écouterait ? Qui voudrait le croire ? Cependant, il fallait prendre un parti, car le bruit et l'agitation croissaient de minute en minute. En ce moment, son ancien compagnon, le garde Wien Kobel, tenta de s'interposer en sa faveur. Il fallait, disait-il, attendre la décision de l'autorité, appeler M. le doyen ou le vicaire de Deezer, qui avait confessé Maria Ingram sur son lit de mort. Peut-être pourrait-il donner des détails sur cette triste affaire. Dans tous les cas, nul n'avait le droit de s'ériger en juge. Il fut interrompu par les imprécations de la multitude, au milieu desquels on distinguait les clameurs des soldats, les paroles conciliatrices de quelques vieillards, les lamentations et les cris des femmes. André se croyait perdu. Il se demandait s'il n'éveillerait pas Moïdi, s'il ne saisirait pas sa carabine pour la tuer et se tuer ensuite lui-même, afin d'éviter une mort plus cruelle. Quand, tout à coup, un grand calme se fit au dehors. Plusieurs voix s'élevèrent pour demander le silence. Franz seul continuait ses vociférations, mais il se tut bientôt, et le prisonnier entendit la tante Anna, qui d'un accent doux et ferme disait à son neveu: tu devrais avoir honte, Franz, de blasphémer et de maudire en ce saint jour de dimanche. C'est toi qui as excité ce tumulte et entraîné tes compagnons, dont aucun peut-être ne savait ce qu'ils venaient faire en arrivant ici. Retourne à la maison sur le champ, va mettre d'autres habits, puis reviens à l'église subir de genoux notre sauveur de ne pas punir plus sévèrement les fautes que celle d'André et de Maria. Tu veux être leur juge, toi, Misérable créature, mais tu n'es qu'un pécheur ignorant comme nous le sommes tous. Allons, poursuivit-elle d'une voix plus haute, ne reste pas davantage, et vous qui êtes rassemblés ici, regagnez aussi vos demeures. Moi seul j'ai le droit de frapper à cette porte, car sachez-le tous, là se trouve mon fils bien-aimé, que j'ai enfanté dans la douleur et que j'ai remis pendant de bonnes années en des mains étrangères. Oui, j'ai consenti à cela, parce que j'étais faible et que je redoutais l'opinion du monde. Mais maintenant, je le déclare en présence de Dieu le Père, de notre Sauveur Jésus et du Saint-Esprit, en face de tous ceux qui m'écoutent, il est mon fils. Avant donc de l'accuser, commencez par m'accuser moi-même. S'il est tombé dans la honte et le péché, c'est moi qui suis coupable. Je ne l'ai pas conduit par la main comme une mère doit conduire son enfant. Je l'ai livré à une autre femme qui ne pouvait l'aimer. À présent que vous savez ces choses, descendez à l'église et priez pour une pauvre pécheresse, pour celle que vous avez honorée pendant si longtemps, et qui sera la dernière, la plus misérable des créatures, si Dieu ne prend en pitié son repentir et ses souffrances. » Quand il eut achevé ces paroles, la foule demeura silencieuse, étonnée. Franz, interdit, se retira lentement, et Anna s'avança vers la porte de la maison, qui s'ouvrit aussitôt. André, debout sur le seuil, se croyait le jouet d'un rêve. Mais il vit le visage de sa mère inondé de larmes. Il vit ses genoux chanceler. Alors il se précipita pour la soutenir et l'étreignit avec amour dans ses bras. Les paysans se dispersaient sans bruit. Les femmes s'essuyaient les yeux avec leurs mouchoirs. Les hommes émus reprenaient en silence la route de Méran. Beaucoup demeuraient en arrière pour regarder par la porte entrouverte la scène qui allait se passer dans l'intérieur de la maison. Peu d'instants après, André, sa mère et Maria reparaissaient, se tenant par la main. Une sérénité tranquille se lisait sur leurs traits transfigurés par le bonheur. Quand Moïdie aperçut Rosine, elle quitta un moment Anna pour se jeter au cou de sa fidèle amie. Puis ces quatre personnes, si étroitement unies l'une à l'autre, traversèrent les groupes immobiles et prirent la route qui conduisait à l'église. La grande nouvelle les avait précédés. Dans les rues, à toutes les fenêtres, on voyait des bourgeois, des vignerons, des artisans attendre le passage d'Anna Hirzer, de celle qu'ils avaient crue sainte et qui aujourd'hui montrait son fils à la ville entière, se déclarant elle-même une pécheresse indigne de la miséricorde divine. Ce matin-là même, à la messe de 10 heures, l'humble pénitente s'agenouillait près du chœur sur les froides dalles. Le prêtre l'aperçut de l'autel. Sa voix trembla en prononçant les premières prières, mais bientôt elle retentit pleine et joyeuse dans la vaste nef, et quand l'orgue se fit entendre, il leva ses regards vers le ciel, invoquant avec ferveur les bénédictions d'en haut sur la tête d'Anna et sur celle des deux jeunes gens qui se tenaient à ses côtés.